Hé, hey, rapido! Ouais, Razmo! T'as un sorcier, richement diable!
Bien ce week-end!
Ce compoton bavard!
J'aime me beurrer la biscotte.
Un pickle ray!
Ouais, c'est pas faux.
Pop culture.
Et ça, c'est sur Pulpe, votre émission de la pop culture.
Ça fait beaucoup là, non?
Eh bien bonjour à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 4, il est 13h et bienvenue sur Pulpe, votre émission de pop culture. Je suis Gonvel et je suis toujours accompagné de mes acolytes Justin et Titouan. Bonjour les gars, comment est-ce que ça va aujourd'hui?
Bah ça va, écoute, bon là je sors du coup de 6-7 heures de disserte, j'ai un peu la tête explosée, mais je vais essayer d'être avec vous le mieux possible.
C'est vrai que c'est un peu, c'est mieux.
Non, bah moi sinon ça va bien, prêt pour cette émission. Moi j'ai rien fait de la journée, là je suis bien.
Ouais, oh, tu vas vraiment geeker comme un porc, tout simplement.
Après on dit que c'est mal feignant.
Ouais. Et du coup alors, au sommaire de cette émission, eh bien il y aura la chronique Incredibilis, la fameuse chronique sur les origines des instruments, hein, présentée par moi-même, et on va parler d'un instrument spécifique comme d'hab. Ensuite il y aura la chronique Sandbox, donc on va parler d'armure et de viking, et on finira sur la sortie des films, les actus de Rennes, et bien sûr cette mission sera toujours bien évidemment accompagnée de musique de qualité. Et donc nous passons tout de suite à la première chronique Incredibilis, c'est parti, générique.
Incredibilis!
Alors aujourd'hui les gars, du coup je vais vous présenter un instrument, enfin vous allez un peu essayer de le deviner, c'est un instrument qui est en cuivre.
Un trombone?
Non.
Trompette?
Une trompette, oui Justin, bien wesh. une trompette, effectivement.
Trop fort. Putain, je me goûte à chaque fois.
Donc en gros, la trompette, c'est un instrument de musique du coup qui est à...
Vent.
Oui, bien ouais, je dis tout. De la famille des cuivres, de la famille des cuivres clairs même pour être plus précis. Du coup, le métal utilisé pour fabriquer la trompette, et bah en fait on utilise principalement du laiton. Pour jouer, on utilise souvent trois pistons, hein, c'est les trompettes classiques qu'on peut voir, en général il y en a trois. Il existe bien évidemment des trompettes à quatre pistons, voire même des fois à plus, mais ça on part dans des cas extrêmes. Et donc je vais vous poser juste la question, qu'est-ce qui selon vous est considéré comme la première trompette?
J'aurais dit le clairon, moi, ou alors la,
ouais, le clairon,
ou la corne, genre tu sais... C'est genre en mode la corne.
Vous êtes très loin. Du Justin, tu Elm. Connais cet instrument. Mais non, sinon vous êtes très loin. Le clairon, non, c'est... Alors, c'est aussi un instrument où il faut souffler dedans. Sauf que là, c'est un long instrument droit.
La flûte?
Non, c'est très long. Ça fait genre 1m20.
1m20? Ah oui, quand même. Mmh.
C'est en bois.
C'est... Ma petite Jiridou?
Non. Oui. Le DJ Jiridou des aborigènes australiens est considéré comme la première trompette en fait dans l'histoire, tout simplement. Même si, comme je le disais juste avant, il s'agit d'un simple tube du coup en bois avec une embouchure en fait en cire, et du coup le mode d'émission du son est le même que pour tous les autres cuivres, et c'est surtout ouais, c'est très dur de jouer du Jiridou, moi j'ai essayé, oui. C'est impossible. Après, bon, on considère quand même le Jiridou comme la première trompette, mais on a retrouvé des traces de trompette dans le tombeau de Toutankhamon. Il y en avait une en or et une en argent, qui semble du coup indiquer aussi l'origine du coup très ancienne, et du coup peut-être aussi égyptien de cet instrument, et c'est pour ça qu'il y a différentes versions, hein, comme pour... l'origine du mot ukulélé par exemple, mais du coup en gros voilà, soit on peut dire que c'est des didgeridoo australiens ou une trompette de Toutankhamon en Égypte ancienne. Alors du coup en fait, avant d'être utilisé comme un simple instrument de musique, la trompette était utilisée principalement du coup, et ça vous le savez, c'est en temps de guerre, que ce soit chez les Grecs, chez les Romains, les Celtes et bien d'autres encore, en gros pour faire des manœuvres de guerre, des manœuvres militaires.
On se souvient toutes du tut-tut dans Kaamelott. Bah, je sais pas pour ça qu'on la ref.
C'est pas faux. Et du coup, en gros, il y a deux grands événements pour la trompette. Le premier, c'est tout simplement l'admission de la trompette dans les musiques de concert, qui est apparue en 1600. Donc, on voyait de plus en plus de trompettes dans les groupes de musique, chose qui n'était pas utilisée avant. Et ensuite, le plus important, je pense, c'est l'invention du piston vers 1815. Même si on a des traces des débuts d'idées de projet avant du coup 1815, hein, qui tourne autour de 1788. Mais du coup, c'est les deux grands événements de la trompette. Aujourd'hui, il existe beaucoup de types de trompettes, hein, comme par exemple la trompette à barillet, donc munie d'un ou plusieurs barillets, et du coup ça permet de dévier d'une coulisse vers une autre, enfin de dévier le vent pardon d'une coulisse à une autre, et voilà, c'est pour donner un autre son du coup, hein. Et du coup, hop, petit jeu comme à chaque fois d'Incredibilis, selon vous, quelle est la trompette la plus chère, la plus chéros de l'histoire?
Ça va être encore parce qu'elle a appartenu à quelqu'un, sans doute. Parce qu'en soi, je pense une trompette, ça coûte bien moins cher qu'une guitare électrique.
Je pense que peut-être que Justin se souviendra si je décris le personnage. Mais il n'y avait pas un grand joueur de trompette jazz. Il est connu pour ses lunettes. Déjà, il était quelqu'un de couleur. Et si tu sais, il avait des lunettes de soleil tout le temps. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Armstrong ou un truc du genre.
Oui, il y a Armstrong.
Il y a Louis Armstrong, Miles Davis.
Oui, Louis Armstrong, c'est ça. Je me bâche. Pour moi, il est très connu, Louis Armstrong. Pour moi, je dis lui.
Et le prix? Moi, c'est surtout le prix qui m'intéresse.
En dollars, on est?
En dollars, toujours.
Dollars. Ce serait que temps que tu fasses la conversion en euros.
Allez, 20 000.
Moi, je dis 50. 20 000 dollars. 50 000.
50. Ouais. Et bah, je tire le chapeau à un des deux. Attention, roulement de tambour. Et bah c'est Titouan qui est le plus proche du prix. En fait c'est une trompette de la marque Martin Comity, et elle appartenait du coup à Dizzy Gillespie. Sa trompette vaut 55 000 dollars. Et du coup ouais c'est pas mal hein. Et du coup en gros Dizzy Gillespie est bah du coup avec Miles Davis et Louis Armstrong l'un des trois plus importants trompettistes de l'histoire du jazz. Et du coup sa trompette a été vendue aux enchères à 55 000 dollars en 95, deux ans après sa mort, tout simplement.
D'accord.
Voilà.
C'est sûr que ça déjà ça augmente des prix. Hein.
Ouais, c'est sûr. Du coup, hein, voilà, moi c'est la fin de cette petite chronique. Hein. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir certaines choses. On va passer tout de suite à la session du coup musique avec Baila Comigo de Davis, Victor Cadeiras et Kelly Ruiz, et puis Hello Daily de Louis Armstrong. Et moi je vous dis bonne écoute à tous et à tout à l'heure.
Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. pasa su mano por todo el cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. Qué calor. Ven, toma mi mano y baila conmigo.
Et nous sommes de retour sur Pulp, votre émission de pop culture, toujours accompagnée de mes acolytes. Juste avant, nous avons parlé de l'origine de la trompette, et du coup, tout de suite, on va passer à la chronique Soundbox. Du coup, on va parler d'armure et de vikings, et Titouan, je te laisse la parole juste après le générique.
Quelle indignité.
Nom de Dieu.
C'est honteux.
Alors oui, je vais vous parler de vikings, et plus précisément de femmes vikings. Parce que j'ai pu me pencher sur le sujet dernièrement et j'ai trouvé les informations plutôt marrantes, plutôt intéressantes. Alors déjà, avant toute chose, j'aimerais vous demander que vous vous concentriez hein, et que vous imaginiez l'image pour vous d'une femme viking. Genre dans votre imaginaire, vraiment, vous prenez peut-être une, deux secondes, voilà. Et puis par exemple, Gwen, c'est quoi l'image que tu as d'une femme viking ?
D'une femme viking, je dirais une femme de la manière dont je la vois, moi, c'est plutôt une femme pardon, qui a du caractère, qui sait combattre, parce que j'estime que tous les Vikings savent se battre, tu vois. Et mais qui peut pas faire des raids ou trucs dans le genre, tu vois. Qui est exclu un peu parce que c'est pas un truc.
Ah oui, parce que quand tu dis femme viking, t'entends pas femme étant viking combattant ou juste femme du peuple viking?
Bah, femme viking quoi, je sais pas, c'est comme si je te dirais femme française. Ah oui. Non, peuple viking.
J'sais
et
pas,
du coup, Justin, même physiquement, je sais pas.
Ah, physiquement en général, elles sont beaucoup. Enfin, on a beaucoup, que ce soit dans les séries ou quoi que ce soit, tu sais, des femmes blondes, pas forcément aux yeux bleus, mais qui sont blondes, pas forcément très grandes, et qui sont juste là pour aider à gouverner ou aider l'homme, tu vois. Et puis faire des petits enfants, voilà, tout simplement.
Eh bien, sauf si Justin a quelque chose à rajouter.
Non, pas vraiment là, ce qu'il vient de dire.
Eh bien, vous êtes pas si loin, hein, franchement, parce que c'est vrai qu'il y a des images dont vous me parlez qui sont proches de la réalité et d'autres vraiment sorties de l'imaginaire collectif. Hein. Alors bon, bien sûr, je vous parle de ça, c'est pas innocence parce que tout le monde connaît la série Viking et dernièrement est sorti Assassin's Creed Valhalla. Alors faut savoir
qui est un jeu sur console,
PC, ce que tu veux. Alors faut savoir aussi que cette image de femme viking et guerrière, elle nous vient pas de n'importe où. Alors premièrement, on a archéologiquement des tombes où on a retrouvé des cadavres de femmes entourées d'armes, de glaives, de boucliers, de lances, de flèches, tout ce qui fait un guerrier, etc. Ouais. L'exemple le plus connu, c'est la tombe de Birkas en 1889, elle a été exhumée. Mais ce que faut savoir, il y a deux, trois petites choses que j'ai trouvées vachement intéressantes. Je vais vous articuler ça autour de trois anecdotes.
Ok.
Alors la première anecdote, ça concerne aussi un peu les hommes, c'est que les femmes ressemblaient beaucoup aux hommes et inversement. Faut savoir, un peu comme les nains dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que comparé aujourd'hui, les femmes vikings, scandinaves du coup de l'âge viking, avaient un physique assez masculin, genre grosse mâchoire, arcade sourcilière prononcée, et que les hommes, eux, pour le coup, ils avaient un visage plus fin que ce que nous aujourd'hui, mâles, on peut avoir. Hein. Du coup, sur une trentaine de tombes de femmes guerrières exhumées, à cause de l'époque où on les a exhumées, les mecs ils étaient pas encore, on n'avait pas les moyens ADN comme aujourd'hui, et ils sont un peu gourés, et en fait sur 30 tombes de femmes normalement, il y en avait que 3 confirmées qui en fait étaient bel et bien des femmes, sinon les autres c'était juste des hommes qu'on a confondus, ouais. Parce que même au niveau du squelette, faut savoir que les squelettes de l'âge viking, c'est les plus difficiles à évaluer si c'est des femmes ou des hommes, parce qu'à l'époque ils se ressemblaient beaucoup.
Oh, c'est marrant ça.
Mais c'est marrant parce que moi, surtout le coup du viking qui ressemble et qui avait le visage d'elfe, je m'y attendais pas trop. Bon, après, c'est bien sûr à prendre des pincettes, faut pas imaginer tout de suite des femmes nains et des hommes elfes, quoi. Sinon, on sera pas à côté.
Oui, non, c'est sûr. Ouais.
À votre avis aussi, pourquoi les vikings ils sont d'un coup mis à attaquer les gens? Genre pourquoi ils ont fait des raids, à votre avis?
Vas-y Justin, pardon, je te laisse la parole.
Ouais, moi j'allais dire, je sais pas, pour découvrir, étendre le territoire ou avoir plus de richesses, genre par exemple du bétail ou autre.
Eh bien, oui et non. Dans le sens, c'est une des raisons, mais en fait, ces derniers temps, ce que les historiens et un peu les archéologues ont mis en valeur, et qui pourrait peut-être même être une des raisons principales, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les vikings étaient polygames. Et que les vikings, du coup, les plus aisés, les plus riches, les plus respectés, avaient plusieurs femmes. Sauf qu'aussi, c'était bien sûr une société très patriarcale, et du coup, ça arrivait, assez régulièrement, qu'il y ait de l'infanticide et que les femmes, quand elles soient nées, on a tendance un peu à les abandonner ou à les tuer.
Yes.
Résultat, c'est quoi le résultat? C'est que les vikings qui étaient pauvres ou qui n'étaient pas forcément très haut dans l'échelle sociale, ils n'avaient plus de femmes. Et du coup, bah, hey, c'est quoi l'idée? C'est qu'on va chez les autres et qu'on va aller les piquer.
Et on les prend.
Et du coup, les Vikings, apparemment les plus pauvres, alors bien sûr, toujours prendre des pincettes parce que c'est une époque éloignée, hein, on n'est jamais très sûr et puis les historiens ne sont jamais d'accord entre eux. Oui. Mais c'est que les Vikings les moins aisés, les moins élevés socialement, partaient en expédition pour ramener richesse, gloire et femme. Parce qu'ils n'arrivaient pas à en trouver en Scandinavie, du coup, à l'époque.
D'accord.
Bah ouais, mais du coup, moi, c'est... ça m'a encore plus surpris dans le sens, le Viking, c'est un mec qui ressemble à une femme, et en plus, qui a pas de... pas du tout de meuf. Il est célibataire, il est pauvre, il faut savoir ça. Et il en souffre.
Il va chez ses voisins pour...
C'est con parce que du coup il souffre et il a fait des guerres à cause du propre à cause de son propre système quoi.
Ouais.
C'est un peu...
bah ouais visiblement.
Le célibat chez les Vikings. C'est, ouais. Parlons-en.
Non mais faut quand même ouais c'est pas chez nous genre on va sur Tinder eux c'est bon bah, on vous envahit on prend des meufs en passant. Et voilà et du coup la question qui se pose c'est du coup d'où nous vient vraiment cette image de femme guerrière surtout est-ce qu'elles existent alors. Faut savoir que, comme disait Gonvel, en fait, les femmes à l'époque, elles étaient assez influentes et surtout très écoutées. Hein. Faut savoir qu'une femme, par exemple, bon, même si c'était pas obligatoire, hein, franchement, si le mec il voulait forcer le truc, il forçait, mais on cherchait leur consentement pour avoir un mariage, par exemple. Elle pouvait divorcer, qu'est-ce qu'elle pouvait, et voilà, comment dire, elle gérait la maison, mais vraiment, c'était leur maison, quoi. Et elles avaient beaucoup d'influence sur leur mari, etc. Du coup, c'est des, entre guillemets, une influence que les missionnaires chrétiens à l'époque, franchement, ils étaient. Ils comprenaient pas, quoi. Genre, vraiment, ils étaient ahuris. Genre, qu'est-ce que.
Comment?
Pourquoi les femmes ne comment les pourquoi la femme elle sort de la cuisine, c'était un peu le point sur la table. Et du coup, ils ont un peu inventé, comment dire. Cette image guerrière de la femme en exagérant finalement le fait que parfois elle pouvait conseiller à son mari d'attaquer quelqu'un pour des questions d'honneur, etc. Mais ça, vrai, bah, il n'y a aucune preuve pour, mais d'un côté, comme je vous l'ai dit, il y a quand même quelques tombes où on a retrouvé des armes, et, etc. Et on ne saurait l'expliquer parce que c'est bien des femmes dedans. Et il est vraisemblable que quand un mari ou un frère mourait, et bah le rôle de chef de famille, s'il n'y avait pas d'héritier mâle, soit donné à une femme. Et du coup que celle-ci, en cas de guerre de clan ou de famille, pouvait se retrouver à l'origine ou participant à des combats en tant que chef. Par exemple, elle pouvait diriger une petite troupe de 10 hommes si vraiment son mari était assez important. Et du coup, il y avait cette notion de peut-être les femmes vikings ont pu diriger des troupes plus ou moins importantes et ont peut-être pu combattre. Alors rien n'est sûr, mais du coup ça ne sort pas non plus de nulle part. On a retrouvé quand même des preuves archéologiques comme quoi c'est possible. Après voilà, c'est une époque reculée, il y a aucune affirmation qui peut être donnée.
Oui, toujours prendre ça avec des pincettes tant qu'on n'est pas sûr.
Et c'est ainsi que je termine ma chronique du coup sur les Vikings. J'espère que ça vous intéresse. Moi franchement c'est des informations qui m'ont.
Ouais non c'était intéressant de savoir de.
Qui m'ont assez surpris.
Des idées reçues qu'on peut avoir et que finalement c'est totalement faux tu vois.
Ah ouais non.
Bah en tout cas merci Titouan pour nous avoir présenté ça. Du coup tu fais bien de rebondir sur un peu des idées reçues qu'on pourrait avoir etc tu vois. Parce que moi je vais vous parler tout simplement d'une chaîne YouTube très intéressante selon moi. Donc cette chaîne s'appelle Histoire Appliquée. Et en fait c'est un historien du coup qui fait des vidéos sur la façon dont le cinéma ou les jeux vidéo font des costumes. De costumes de personnages, que ce soit des Vikings, que ce soit des Romains, que ce soit de tout en fait. Et lui il est plus fort entre guillemets, plus spécialiste plutôt dans tout ce qui est le Moyen-Âge, tout ce qui englobe le Moyen-Âge dans les costumes
historiques un Moyen-Âge
en soi.
C'est un peu le Saitama du costume, l'outsider trop fort.
C'est ça. Et du coup, en gros, il a regardé la série The Witcher. Alors, du coup, la série The Witcher, c'est une série qui est dérivée d'un livre. Donc, The Witcher, ce sont des romans fantastiques où, en gros, c'est un sorceleur. Donc, un sorceleur, c'est une espèce qui est là pour tuer les monstres qui sont dans le monde. Donc, quand je dis monstres, ça peut être des araignées géantes, des scorpions, tout dans le genre, en gros. Et en gros, on les paye pour qu'ils tuent ces monstres-là. Et du coup, en gros, il y a eu du coup une série qui a été faite
sur Netflix.
Sur Netflix, effectivement, merci Titouan. Et en fait, il l'a regardé et il s'est dit, c'est pas possible que ces costumes aient été mis dans la série, dans la série, parce que c'est pas le, enfin,
c'est trop moche,
c'est nul, c'est moche. C'est pas, voilà. Et donc, en gros, il a créé le projet Nilfgaard. Nilfgaard, pourquoi Nilfgaard? Parce que c'est une, il estime que dans la série, c'est le clan des Nilfgaardiens. Qui a les pires costumes au monde, et c'est pas faux. Même moi, quand je les ai vus, j'ai fait ah,
ils sont okay. Fait avoir les plus budgets pour eux.
Alors, du coup, je cite selon lui, hein, et en gros, il le dit. Alors, franchement, la série The Witcher sur les costumes, on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux. Il a donc réuni 11 invités. Parmi ces invités, il y a Ben Nevers, le fossoyeur de films, Nota Bene, Rivenzi et plein d'autres encore. Pour expérimenter des tenues plus crédibles et plus cohérentes, ces invités vont nous faire découvrir à travers leurs yeux, que l'histoire est la meilleure source d'inspiration pour le cinéma et que la réalité est souvent bien plus et que la réalité pardon a souvent bien plus d'imagination que peuvent avoir nos rêves. Et du coup, bienvenue dans le projet Nilfgaard. Et donc, en gros, il a essayé d'avoir une cagnotte. Un financement participatif, et il a récolté 50 000 euros qui lui a permis du coup de faire 11 armures. Et du coup, dans ses vidéos avec les invités, il va expliquer à quoi sert ce type d'armure, pourquoi est-ce qu'il y a ça sur cette armure et pas ça sur l'autre. Alors, quand je dis armure, ça peut être tout de suite quand on pense armure, on pense un truc métallique, etc. Mais il va faire aussi des armures qui vont être où il va avoir pas mal de tissu et très peu de métal. Il va en avoir seulement pour les gants ou pour les épaules et c'est la côte de maille, quoi, ouais. C'est tout. Et donc, en fait, il montre que bah, par exemple, une jaque. Je crois qu'il y a deux façons de la prononcer, mais une jaque, en gros, c'est ce qu'on met en dessous la côte de maille. D'accord, ouais. Donc c'est un énorme tissu, un énorme pull en fait, très épais, qui protège bien. Et en fait, il y a plein de boutons sur la jaque, tu vois. Et en fait, beaucoup de gens disent ouais, mais c'est long et tout à mettre, alors qu'en réalité, en deux minutes, t'as fini, tu vois. Alors certes, ça peut coûter cher, mais si on prend par exemple le budget que met par exemple on va dire Netflix dans les costumes des Nilfgaardiens et le budget que tu peux mettre dans des costumes qui sont un peu plus réalistes et moins fantastiques et moins dérisoires entre guillemets, et ben en fait tu peux pour le même prix tu peux avoir des costumes bien plus intéressants en termes d'histoire et en termes de logique pour la série The Witcher. Donc en gros,
ouais, parce
voilà.
Que c'est ça, ils se basent aussi. Ils essayent de les faire un peu le plus historique possible aussi, c'est ça, que ça concorde avec ce qui a été fait.
Ils essayent de les faire plus historiques et que ça soit aussi lié à la série The Witcher. Donc, comment est-ce que les livres décrivent les armures
dire, parce que la série, c'est aussi, ils ont un peu rebondi sur le succès du jeu. Parce que toi qui as joué au jeu et vu la série, je crois, est-ce que au niveau de la série, oui. c'est ressemblant avec les costumes, les tenues du jeu?
Bah justement, c'est pour ça que je dis ça, c'est que les costumes par exemple des Nilfgaardiens dans la série sont totalement différents que les costumes dans le jeu,
ah ouais.
Tout simplement. Même Geralt de Rive, donc le personnage principal, dans la série va pas avoir beaucoup d'armure, alors que dans le jeu, justement, il a une armure, c'est quand même un sorceleur, mais c'est quand même une personne qui se bat, donc il a forcément une armure. Le jeu en tout cas est très bien en termes d'armure.
C'est un très bon simulateur d'armure, vraiment, si vous en cherchez.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi dérisoire que pour la série, tu vois. En même temps, logique, il n'y a pas du budget armure, tu vois. Mais en gros,
ils recherchent la réalité, quoi.
Ouais, voilà. Et en fait, ça montre. Et du coup, bon, après, ça, c'est le projet que Nilfgaard qui fait, mais il fait plein d'autres choses. Et je rebondis sur Assassin's Creed, tu vois, où pendant un live Twitch, il a analysé le
costume.
Ouais, les costumes d'Assassin's Creed, mais lors de. Mince, comment on appelle ça ? Ah, je l'ai en tête.
Lors
c'est
du,
quand tu présentes.
Le clip de Norman.
De l'annonce. Non, lors de l'annonce du jeu vidéo, en fait. Du jeu
Assassin's Creed. Ah oui, le trailer.
Eh bien, il. Le trailer, c'est ça, il a analysé un peu les costumes et tu vois, il a dit par exemple ce qu'on trouve beaucoup malheureusement, que ce soit dans la série Viking ou dans le jeu, c'est que les boucliers sont pas assez gros pour
arrêter un coup.
Pour arrêter un coup, même ils sont pas assez gros pour protéger ouais. Tout court. Techniquement, c'est ultra grand un bouclier. Ce casque là, c'est pas un casque qui est techniquement censé être présent à cette époque, etc. Ouais. Tu vois. Et donc du coup il analyse un peu ça. Il fait aussi des petits tutos hein, pour faire des boucliers soi-même. Grandeur nature, c'est très simple hein, et des trucs là dernièrement il a fait pour faire une pochette en cuir style Moyen-Âge. Mais du coup en gros voilà, il joue beaucoup sur l'armure de toute époque quoi.
Après un bouclier pour être vraiment si on est sur le côté historique, un bouclier peut être très petit. C'est, ça dépend de l'utilisation.
Ah non, mais je suis d'accord, mais les boucliers vikings,
Pas de bocle.
Eux sont.
Avec pas de quoi ?
De bocle. Ça, c'est les tout petits boucliers, souvent en métal ou un peu en cuir,
oui.
Très, très petits.
Ah oui. Mais oui.
Qu'ont certains gladiateurs, trucs dans le
oui,
genre.
Je vois.
Mais non, mais pour rebondir, là c'était pour l'exemple de, des vikings, du coup. Mais en gros, voilà. Mais du coup, ils jouent beaucoup sur. Les costumes en général, les différences en fait et les incohérences qu'ils peuvent avoir.
J'ai hâte de voir une vidéo sur 300, sur l'analyse du caleçon de chaque spartiate, pour nous, qui nous dit si c'est bien réaliste ou pas.
Carrément. Non bah du coup voilà, c'était la fin de ma chronique pour moi, enfin de ma partie. Bah écoutez, du coup on va passer tout de suite à la musique hein. Alors du coup c'est parti avec The Red Baron de Sabaton et Berserker. Et du coup je vous dis bonne écoute à tous et à tout à l'heure.
Flying to pass, and he's flying to hide. Higher, an eye for an eye.
Et bien du coup, j'espère que cela vous a plu, hein, les deux chroniques qu'on a fait dans cette émission. C'est déjà la fin de cette émission. Comme d'habitude, je vais vous parler bien évidemment des sorties de films sur les plateformes de streaming et des petites actualités de Rennes, parce que c'est bien de savoir ce qu'on peut dire. Alors du coup, pour les sorties de films sur les plateformes de streaming, j'ai commencé par Amazon Prime et je vais vous parler de The Wild. Donc en gros, c'est un à mi-chemin entre un drame survivaliste et une soirée pyjama dystopique.
Voilà. C'est pas bizarre comme ça.
Ouais. En tout cas, tu le vends très bien.
J'ai pas fini. Tu vas voir, ça vend du rêve. Donc The Wild suit un groupe d'adolescentes issues de différents milieux et qui doivent se battre pour survivre sur une île déserte à la suite du coup d'un crash aérien. On ne sait pas vraiment grand chose sur le crash aérien. On va apprendre petit à petit, bien évidemment, hein, et on va apprendre aussi petit à petit qui sont ces héroïnes qui sont mises à l'épreuve aussi bien du coup physiquement que psychologiquement. Et en gros, du coup, de l'intrigue va porter sur ça, sur déjà découvrir l'île, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. En fait, ça va être toute leur survie qui va être décrite. Et du coup, ça sur 1h30, 2h, hein, puisque c'est un film, c'est pas une série.
D'accord.
Donc, ça c'est sur Amazon Prime. Si vous voulez aller voir. Maintenant Disney+, alors on va parler d'un film qui a beaucoup fait parler, pas en bien, mais c'est la sortie du coup de aujourd'hui, tout simplement, de Mulan. Et donc Mulan qui a beaucoup fait parler, puisque Mulan devait être diffusé dans les salles de cinéma, mais Disney a racheté, a dit non, finalement ce sera que sur Disney+. Et du coup, tous les directeurs de cinéma et tout ont pété un câble parce qu'ils avaient déjà prévu
des séances et
des diffusions.
Et c'est pour ça que du coup le film a été mal. C'est pour ça qu'il y a des trucs négatifs autour du film. C'est à cause de ça ou c'est parce que
ouais.
C'est pas en.
C'est à cause de ça, c'est à cause de ça.
Bah, perso, le trailer il m'a pas donné envie non plus. Hein. De toute façon, je serais pas allé le voir. Je veux dire, il avait l'air
un peu nul.
Tu sais, il y avait pas Mouchou.
Alors pour ceux qui du coup qu'on Disney, hein, c'est il sort aujourd'hui. Donc le speech, c'est lorsque l'empereur de Chine publie un décret stipulant qu'un homme de chaque famille du pays doit intégrer l'armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, une jeune femme décide de prendre la place de son père au combat, se faisant passer pour un soldat du nom de. Désolé pour la prononciation, hein, je vais pas vous le cacher. Hua Jun. H-U-A espace J-U-N pour ceux qui seront prononcés. Elle va devoir du coup tout mettre en œuvre pour devenir une guerrière éméritée. Et du coup, on va suivre ça. Après, Mulan, c'est très connu hein, comme histoire.
Ouais. Le nom était plus facile dans le dessin animé, hein. Si je me souviens bien, c'était Ping ou un truc déjà.
Ouais, oui, le nom était beaucoup plus facile dans le dessin animé, je te le cache pas. Maintenant, sur Netflix, je vais vous parler de Mank, M-A-N-K. Ne pas confondre avec Monk. C'est un film de David Fincher, un très grand réalisateur hein, de long métrage. Donc en gros, ce film jette un point de vue caustique sur l'Hollywood des années 30, où le scénariste Herman Mankiewicz, du coup qui est alcoolique, invétéré au regard du coup à Cerber, il tente de boucler en fait un script. Du chef-d'œuvre Citizen Kane d'Orson Welles, et en fait on est plongé dans l'âge d'or hollywoodien à travers du coup tout son processus d'écriture sur comment est-ce qu'il va écrire, pourquoi est-ce qu'il ne va pas être compris, ça va être un peu comme un génie incompris en fait, et pourquoi est-ce que il est alcoolique aussi un peu sur ça.
C'est un biopic, ouais.
Donc du coup on va suivre ce type tout simplement. Et sur la plateforme française qui est Salto, je vais vous parler de Quartier des Banques, qui est une série. Donc la saison 1 est sortie cette semaine. Donc en gros, c'est janvier 2012 à Genève. Le secteur bancaire suisse est en plein danger alors que la communauté internationale attaque le secret bancaire. Dans ce contexte, Paul Grangier, jeune directeur de la banque privée éponyme, est retrouvé inconscient chez lui à la suite d'un choc insulinique. Surmenage ou suicide, sa sœur Elisabeth, qui hérite de la direction de l'entreprise, est la seule à soupçonner un crime. Elle va devoir apprendre à survivre dans un univers où elle n'est pas la bienvenue. Donc ça va jouer sur les femmes qui sont haut placées, qui ont de la responsabilité, sur est-ce que c'est vraiment un crime, si c'est un crime, qui a commis ce crime, pourquoi. Voilà, c'est un petit peu, on va se la poser de plein de questions au fur et à mesure de cette série.
Ah, j'imagine bien le truc, genre, oh non, comment va-t-elle survivre à la tête d'une banque suisse? Quelle difficulté.
Aïe, 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 coup,
coup dur pour la joueuse qui voit son frère mourir et hériter du coup de toute l'entreprise familiale. Zut alors.
Non, mais enfin bref. Du coup, ça c'était pour les sorties de films. Maintenant, on va passer à l'actu de Rennes. Alors, l'actu de Rennes, j'ai deux choses à parler. Le transport qui est gratuit et les portillons anti-fraude. Donc, le confinement à Rennes, les transports sont gratuits les deux week-ends avant Noël.
Ouais, c'est cool ça. Ah.
C'est plutôt sympa ça.
Ça c'est vraiment cool. Donc, ce qui est plutôt sympa aussi, c'est que les commerçants vont également pouvoir installer des étalages dans la rue. Parce que à la norme de un client tous les 8 mètres carrés, il y en a qui peuvent pas. Donc comme le dit la ville, hein, choisissons le monde d'après, soutenons le commerce local. Donc ça c'est les messages qui s'affichent depuis à peu près lundi sur les panneaux dans les centres-villes de Rennes. Du coup, c'est une mesure qui est décidée par la ville afin de soutenir les petits commerçants touchés par la crise. Alors je cite, je lance un appel collectif aux Rennais et aux Rennaises pour leur dire que l'acte d'achat est aussi un acte civique. Quand on est consommateur, on est aussi citoyen, avait indiqué la maire de Rennes il y a une dizaine de jours maintenant, exhortant les habitants à en fait dire acheter local pour les fêtes de fin d'année, histoire de soutenir les commerçants. Donc les commerçants, comme je l'ai dit juste avant, pourront utiliser l'espace public hein, pour inciter le chaland à se rendre dans le centre-ville.
Le chaland
de Rennes, du coup, pour faire ses achats. La métropole, du coup, a décidé la gratuité des réseaux Star des deux week-ends précédents Noël, donc soit le samedi 12, dimanche 13, samedi 19 et dimanche 20 décembre. Et vendredi, le nouveau préfet d'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, avait pris un arrêté autorisant à titre exceptionnel l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année dans le département. Et du coup, à Rennes, les commerçants auront également le droit d'installer des étalages sur le trottoir devant leur boutique afin de gagner en surface de vente tout en respectant les distances sanitaires. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est actualité avant Noël. Et maintenant, on passe à la nouveauté de ce mois de décembre. Je sais pas si vous avez essayé, les gars, mais moi, j'ai essayé le nouveau métro à Rennes avec les portillons.
Non, moi, j'ai pas essayé.
Donc, en gros, les portillons anti-fraude, du coup, sont entrés en service dans le métro. 90 portillons ont été mis en place dans les stations de la ligne A du métro à Rennes, malgré les inquiétudes de beaucoup de personnes. Et quand je dis beaucoup de personnes, c'est les inquiétudes des personnes qui sont en situation de handicap. Oui. Parce que avant à Rennes, il n'y avait pas les portillons, donc c'était plus simple pour eux. Alors que maintenant, c'est un peu plus compliqué puisque c'est pas des fois très bien mis. Donc la métropole de Rennes, du coup, veut en finir avec la fraude dans le métro, ce qui est logique. Et du coup, pour remédier à ce phénomène qui lui coûte environ 3 millions d'euros par an, elle a décidé d'installer des portillons.
Mais tout le monde fraude, hein. Sauf moi, du coup.
Le métro de Rennes.
Tout le monde fraude.
Le métro de Rennes, c'est connu pour être le métro de la gratuité. Plus maintenant, en tout cas, mais voilà. Et donc, du coup, en gros, depuis juillet 2020, 90 portillons ont été installés, surtout de la ligne A. Et ils sont effectifs depuis maintenant le 1er décembre. La ligne B, dont la mise en service est prévue mi-2021, sera elle aussi équipée de ces portillons. Alors du coup, moi j'ai pu tester aussi les nouvelles billettiques. Les nouvelles billettiques, c'est plus efficace que les anciens où c'était des petits tickets qu'on nous donnait et c'était pas très pratique. Et ça faisait beaucoup de bruit, notamment quand tu as fini de payer, ça fait un long bip là. Mais en gros, ça ressemble quasi pour cent à ceux qui étaient là. C'est juste un peu plus moderne. Mais le problème, c'est les personnes qui sont en situation de handicap. Ces équipements, en fait, ne font pas l'unanimité. Le collectif On Existe, qui regroupe des citoyens en situation de handicap à Rennes, du coup, est inquiet pour l'accessibilité, notamment pour les personnes atteintes de ce handicap, de handicap moteur, pardon. Donc le collectif disait un grand nombre de personnes souffrent de pathologies touchant à la fois les membres supérieurs et les membres inférieurs. Le geste de validation du ticket carte sera donc lourdement compliqué ou impossible parce qu'en fait, du coup, quand t'es handicapé, t'as une porte spécifique pour ouvrir le portillon. Sauf que pour ouvrir cette porte, il faut pouvoir mettre la carte. Sauf que des fois, beaucoup de personnes handicapées ne pouvaient pas tout simplement mettre la carte puisque ils peuvent pas bouger leurs bras. Ou même se pencher et du coup Rennes s'est dit s'ils arrivent pas on va mettre un bouton comme ça ils appellent et puis nous on leur ouvre. Le problème c'est que ces boutons sont installés n'importe comment et donc je prends l'exemple, ces boutons sont installés dans des angles et en gros le fauteuil roulant il va dans l'angle mais du coup c'est toujours trop loin pour une personne qui veut essayer de toucher avec son doigt donc beaucoup de personnes se sont plaint de ça parce que c'est pas du tout adapté pour beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, malheureusement. Donc voilà, après, à voir s'ils vont faire des changements, ça serait bien parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont plaints sur ces problèmes.
S'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, ils vont, je pense, faire quelques efforts pour essayer de modifier. Moi, j'espère.
J'espère en vrai parce que sinon, c'est dur quoi. Je veux dire. Vas-y, dis-toi, tu veux dire.
En plus, les portiques, je suis même pas sûr que ça leur soit si rentable que ça. Parce que là, ils les ont, du coup, comme tu viens de le dire, ils viennent de les rendre opérationnels à partir du 1er. Mais moi, ça fait bien 2-3 mois que je les vois s'installer et que la moitié des vitres étaient déjà pétées sur ces machins-là. Genre, les gens, ils étaient déjà en train de s'attaquer aux machins. Aux machines, du coup, le prix pour les réparer sur l'année. Ça va leur revenir pas mal cher aussi. Hein. J'espère qu'ils ont bien fait le calcul, mais comme t'as.
Je pense qu'ils ont bien fait le calcul parce que vraiment là, tu n'as vraiment plus moyen de frauder. Hein.
Je parle pas de frauder, je parle un jeudi soir après. Imagine. Manif étudiante.
Je suis d'accord, un jeudi soir.
T'enchaînes le jeudi soir manifs, à minuit, t'as plus de portique. Hein. Ils sont partis. Hein. Alors, ils sont dans la Vilaine, ils sont dans la rue, ils sont sur le bon coin, mais ils sont plus là, ça c'est sûr.
Enfin, les vitres sont pétées.
Oh, ils seraient capables de les prendre. Juste pour la déconne. Hein.
Ah, c'est chaud en vrai de les prendre.
Et tu vois tout, hein. Tu vois sur le bon coin, sur des trucs comme ça, tu peux voir des vélos, tu peux voir des scooters, tu peux voir des lampadaires, radars. Genre, les gens ils s'en foutent. Hein.
Tu peux voir des ATM. Non, mais je suis d'accord. Donc, du coup, voilà, ça c'était les actus de Rennes. Cette émission est finie. Pour finir en beauté, bien évidemment, avec deux musiques de qualité, avec Kosei Fai de Feder et Ombé de Laurie Darmon. J'espère que ça vous a plu cette émission aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine les gars et puis en tout cas portez-vous bien jusque la semaine prochaine. Ma cosa credi? Chiudi la bocca, lascia stare, fai. Cos'è successo? Dai, adesso fa quello che vuoi. Non tornare più, non piangere. Tu stai laggiù, ma cosa fai? Chiudi la bocca, lascia stare, vai. Cos'è successo? Dai, adesso fa quello che vuoi. Non tornare più, non piangere. Tu stai laggiù, ma cosa fai? Ma cosa fai? Cosa fai?
soit mois de mai, début de semaine je sais, la fièvre au bout des doigts, j'appelle n'importe quoi, personne répond présent, demain réubilan, désolé, occupé, journée chargée, je vais. Alors je me décide à sortir, absolument seule, je descends la rue des martyrs, ça c'est mais ça s'engueule, je croise des gens pressés et d'autres plus posés, tranquille, terrasse, vin blanc, cigarette. Et le temps qui passe, passe, file. Ça nous agace, la vie défile. Peut-être faut-il que je me range. Je ne suis pas cette minette franche. Quand soudain j'entends la musique. Et puis je danse, 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 danse. Et tu viens, 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 viens. Je me laisse aller avec toi, 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 toi. On bouge, on bouffe, on boit, on paie, paie.
Et puis je t'en...